Sur la certification, donc, vous avez compris qu'il y avait quatre blocs. Donc, la logique des blocs de compétences nous donne quatre unités certificatives. Nous étions contraints par les six épreuves au total. Donc, il y en a une qui est basculée du côté de la culture générale et de l'expression. Une deuxième pour les langues vivantes au choix des candidats. Une troisième pour culture économique, juridique et managériale. Donc, il nous restait trois épreuves pour quatre blocs de compétences. Donc, la seule ruse qu'on ait trouvée, c'est d'avoir une épreuve scindée en deux sous-épreuves. Et chacune de ces deux sous-épreuves valide ou est en correspondance avec un bloc de compétences. Alors, on n'a pas voulu fondre l'une dans l'autre ou trouver un nom qui soit commun. Donc, le nom de cette épreuve 5, il est assez long. On n'est pas sûr que le service informatique qui sera chargé du paramétrage du logiciel soit en mesure de faire entrer toutes les lettres du nom de l'épreuve. Mais ça, c'est leur affaire. Nous, on a rempli notre mission. On a bien quatre blocs de compétences, quatre unités certificatives. Plus sérieusement, même si l'obstacle est sérieux, concernant les épreuves, il nous a semblé, on a mené un petit peu une étude de faisabilité autour de plusieurs critères. Est-ce que les activités qui sont constitutives du domaine d'activité sont observables ou non en stage? Oui, non. Est-ce que ces activités sont immédiatement accessibles à un lauréat du diplôme? Oui, non. Voilà. Donc on a eu plusieurs critères qui nous ont amenés à identifier des formats qui étaient peut-être mieux adaptés à certains blocs qu'à d'autres. Et puis, il y a aussi une contrainte, un élément que nous avons voulu intégrer, c'est la diversité des formes de communication et valoriser la communication écrite. Voilà. Donc, on se retrouve effectivement dans une configuration où la moitié des coefficients portant sur les épreuves professionnelles vont être attribués à des épreuves écrites, mais c'est un choix et on l'assume parce qu'au moment des entretiens avec les professionnels, on nous a souvent dit que l'écrit était parfois un peu fragile. Et donc, plutôt que de passer à côté de l'obstacle, on a effectivement plutôt choisi de le travailler pour permettre aux étudiants, aux candidats, de progresser sur ses compétences de communication écrite. Donc on se retrouve avec quatre unités certificatives, deux qui vont plutôt se passer à l'oral ou en CCF, et deux qui vont être à l'écrit. E4, donc l'épreuve évalue l'acquisition des compétences et la maîtrise des savoirs associés au bloc de compétences 1, gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME. Les critères d'évaluation, c'est tous les résultats attendus qui apparaissent dans chacune des activités, à la fois des résultats attendus qui sont communs à l'ensemble des activités, donc ce qu'on a qualifié de transversal tout au long de la journée, et puis des résultats attendus qui sont spécifiques à chacune des activités. Voilà. Et puis, l'épreuve s'appuie à la fois sur un dossier et sur un entretien, faisant référence aux situations professionnelles vécues ou observées par le candidat ou la candidate au cours de sa formation, et notamment des ateliers de professionnalisation. Mais pas, quand le notamment, vous le lisez bien, comme étant pas seulement. Et on a vu qu'effectivement, dans les ateliers de professionnalisation, il y avait aussi une imbrication forte de la part des périodes en entreprise. Alors, sur le ponctuel, donc, les candidats qui ne sont pas habilités ou les établissements qui ne sont pas habilités au CCF, on a une épreuve orale en ponctuel qui est assez longue, une heure, composée de quatre phases. La première phase, présenter, expliciter le contexte, expliquer et justifier les démarches, les techniques et les traitements qu'il a mis en œuvre pour réaliser les travaux en GRCF. Deuxième phase, qui est une phase pratique, donc à partir d'un travail qui a été demandé par la commission, donc il y aura lu le dossier préalablement, et on demande au candidat non seulement de réaliser, mais aussi de justifier ses choix techniques et de les analyser, la réflexivité dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Troisième phase, 15 minutes là encore, analyser une situation de communication orale. Alors c'est simuler et analyser une communication orale. Donc il y a un sujet de communication orale. L'entretien se déroule avec un des membres de la commission. Et puis on demande à la fin de la simulation au candidat d'analyser cette situation de communication orale. Là encore, passer du faire à l'analyse de ce que l'on a fait, la fameuse réflexivité. Et puis, quatrième phase, analyser une situation de communication écrite qui est choisie parmi celles proposées par le candidat dans ce dossier. Sur le CCF, c'est plus simple. Alors, on a voulu, alors dans les critères aussi, j'ai oublié tellement c'était évident, on a voulu simplifier la certification par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, voilà, donc deux situations. Une situation A qui se déroule dans le cadre normal de la formation. Alors, pour être très schématique et synthétique, il n'y a bien qu'une seule situation A. Vous ne remplirez, professeur, qu'une seule fois la fiche d'évaluation correspondant à la situation A, mais le renseignement de la fiche d'évaluation pour la situation A, je capte l'attention, là, je le sens, mais ça me permet de reprendre le souffle. Le renseignement de la fiche de situation A n'est réalisé qu'une seule fois, mais à partir d'informations qui ont été recueillies tout au long de la formation, pendant les ateliers de professionnalisation, les enseignements liés au domaine d'activité 1 depuis le début de la formation, mais aussi ce qui a été fait évidemment en établissement et pendant le stage. Donc c'est bien une seule fiche à remplir, la situation A, elle est renseignée par l'équipe pédagogique, par les professeurs qui ont été confrontés au domaine d'activité 1, une seule fiche A par élève, par étudiant, mais à partir d'informations qui ont été recueillies tout au long de la formation. Et la question qui va se poser, c'est la question effectivement de la mémorisation de ces informations. Comment est-ce qu'effectivement, dans votre activité, vous pouvez intégrer un outil qui vous permet de recueillir des informations? Alors, on aurait eu 2 jours, on vous l'aurait présenté, mais sur le BTS-CG, par exemple, on a exactement la même définition d'épreuve. Et des professeurs ont trouvé des moyens extrêmement simples d'assurer ce suivi. Comme on a l'expérience du BTS-CG, on peut vous indiquer l'écueil à éviter. Cette situation A, ou la note que vous allez attribuer pour cette situation A, note sur 14, n'est absolument pas une moyenne de tout ce qui aura été réalisé. Ce n'est pas une somme de situations à prendre en compte, parce que sinon vous ne seriez qu'évaluateur pour la certification, mais c'est bien des informations que l'on recueille en tant que formateur, et à un moment donné, en cours de deuxième année, on fait le bilan de ce qui a été fait, on met sur la table toutes les informations que l'on a sur un élève, et puis on renseigne cette fiche de situation A, on dresse le profil du candidat, et à partir de ce profil, on a une note. Voilà. Et puis la situation B, donc situation B, situation pratique sur poste informatique, pendant une demi-heure, 2 fois 15 minutes, le candidat est convoqué, mais comme vous avez l'habitude de le faire pour le CCF aujourd'hui, il est convoqué, il vient, il remet un dossier. À partir de ce dossier, vous lui donnez un travail à effectuer. Il a un temps de préparation de ce travail. Et puis, on l'évalue sur poste info, donc partie pratique. Et puis, il y a une deuxième phase où on analyse une situation de communication orale. Là encore, même scénario, simulation entre le candidat et un de ses professeurs ou ses professeurs, et analyse la situation orale. Voilà, deuxième épreuve E5A, donc on évalue l'acquisition des compétences et des savoirs associés relevant du bloc de compétences 2, participer à la gestion des risques de la PME. Les critères, comme pour la première, les critères d'évaluation correspondent aux critères de performance exprimés pour chaque compétence du bloc ou pour chaque activité ou résultat attendu pour chaque activité du bloc de compétences. Et puis l'épreuve prend appui à la fois sur un dossier et sur un entretien. Le dossier a été préalablement étudié par la commission. On évalue un dossier, un rapport qui a été écrit, rédigé par le candidat avant de se présenter à l'examen. Dans ce dossier, pour faire très court, ce qu'on lui demande, c'est de travailler la notion de risque, de cartographier, si vous voulez, les risques de la PME ou une partie des risques de la PME dans laquelle il a effectué son deuxième stage. Donc on est sur la prise en compte des risques financiers. C'est un passage obligatoire parce qu'on considère qu'effectivement la prise en compte des aspects financiers est importante. Et puis on lui laisse le choix de travailler d'autres risques. Ça peut être les risques liés à la protection des données, etc., ou à la protection des personnes. On lui demande d'effectuer un travail de veille. Et c'est une manière d'évaluer la veille. Ensuite, l'épreuve se déroule en 30 minutes. deux phases, présentation par le candidat ou la candidate en 5 minutes maximum de son travail, mais le travail a été lu auparavant, donc on considère que les 5 minutes suffisent. C'est un temps d'évaluation de la communication orale aussi, sous une forme d'exposé ou de présentation en tout cas, et puis un entretien derrière pour approfondir le travail qui a été lu ou présenté et présenté par le candidat pendant les 5 minutes. Sur le CCF, c'est exactement la même définition. Donc, pas de changement. Là, une situation de CCF, le candidat est convoqué une fois et une seule fois pour cette épreuve E5-1 lorsqu'il est étudiant. E5-2, donc on évalue les domaines d'activité 3, gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME. Voilà, les critères de performance, ben vous connaissez maintenant l'expression. Étude de situation, étude de cas, 2h30, avec une situation qui porte sur la gestion du personnel et la gestion des ressources humaines dans la PME. C'est à l'écrit parce qu'on considère que ce sont des champs qui sont plus difficiles à travailler au moment du stage. Ce sont des dossiers qui sont moins accessibles pour un étudiant. Et donc, le choix de l'étude de cas... On peut imaginer une étude de cas avec des annexes juridiques que le candidat a à prendre en compte pour travailler ou répondre ou résoudre la mission qui lui est confiée. Et puis E6, soutenir le fonctionnement et le développement de la PME. Alors une remarque suite à une question qui m'a été posée à midi par rapport au titre. Le candidat n'est pas la personne ou l'étudiant n'est pas la personne par laquelle le développement va passer. Il est en situation de soutien au fonctionnement et au développement de la PME. Le dirigeant reste le maître à bord. On ne va pas prendre le même écueil que ce qui a été fait sur projet de développement de la PME aujourd'hui, ou écueil que l'on rencontre parfois. On est bien en soutien, et ce soutien se fait essentiellement par la production d'informations, d'indicateurs, qui vont permettre aux dirigeants de l'entreprise de prendre les meilleures décisions dans une problématique de fonctionnement et de développement de la PME. Les critères d'évaluation, c'est exactement ce que vous avez lu précédemment, sauf que là, on parle du bloc « Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME ». On a une étude de cas, 4h30, parce qu'il nous semble que le format actuel, les candidats passent beaucoup de temps à la lecture et que le temps 4h est un peu court pour évaluer une diversité de compétences. Bon, on passera à 4h30. Je ne vous donnerai pas l'argument qui nous a permis de passer à 4h30, puisque c'est un peu difficile à organiser, mais ça permet de faciliter le calcul des tiers-temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la certification ?
Pour l'épreuve E4 ponctuelle, il y a 4 situations d'évaluation avec 15 minutes maximum. Et l'épreuve en elle-même faisant une heure, sans que ce soit spécifié maximum. Et en tant que, enfin on est plusieurs, en tant que présidente de commission, notamment des étudiants des centres privés hors contrat, ça nous pose un problème. Mais même avec l'interréférentiel, on avait le même problème.
Sur le maximum ?
Oui, c'est-à-dire si on interroge aux 4 situations 10 minutes les 4, ça fait 40 minutes. Donc on garde quand même les étudiants 20 minutes en plus.
C'est un point réglementaire, c'est 15 minutes. Voilà, c'est 15 minutes farfas, c'est 15 minutes. Ouais. D'autres questions sur les épreuves ?
Concernant le CCF pour l'épreuve E4 et notamment la situation A, ce sont des travaux qui ont été faits durant le stage, mais aussi durant l'atelier, c'est ça ? Ça peut couvrir les deux ?
Oui.
D'accord.
Oui, on précise bien que c'est pendant tout le temps de formation, mais on valorise évidemment. Enfin, ce qu'on voudrait, un point que l'on voudrait, sur lequel on voudrait insister aussi, c'est la nécessité de réinvestir le contenu formatif ou l'objectif de formation du stage, notamment par la phase d'explicitation. On consacre, si on vous dit, il y a 10 demi-journées au maximum. Pour préparer le stage, etc., rechercher l'entreprise. C'est-à-dire que pendant 20 demi-journées correspondant aux ateliers de professionnalisation, on va être vraiment sur des travaux assez nouveaux par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, en tout cas nouveaux pour un grand nombre d'équipes ou un certain nombre d'équipes. Donc sur la réflexivité, sur la construction de la polyvalence dont on vous a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Et donc, les matériaux ramenés des stages peuvent être réinvestis au moment des heures d'atelier de professionnalisation et faire l'objet, pour partie ou en totalité, du dossier qui sera préparé par l'étudiant pour l'examen. Grille horaire très rapidement. Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME. En première année, 2 plus 3. Alors, globalement, on fait un effort. Alors, on est à moyen constant, moyen professeur, mais en faisant un effort pour les groupes à effectifs réduits. L'idée, c'est d'accompagner au plus près les étudiants. Donc, gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME, c'est vraisemblablement plutôt une activité ou des activités que l'on peut conduire en première année. Donc, 2 plus 3. Et en deuxième année, 0 plus 1. Le plus 1 en groupe, en deuxième année, c'est pour préparer l'épreuve 4. Participer à la gestion des risques de la PME, on considère que c'est plus à partir d'une maturité ou d'une expérience, donc des enseignements qui sont installés en deuxième année, donc rien en première année, 2 plus 1,5 en deuxième année. Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME, donc même chose, rien en première année, 2 plus 1 en deuxième année. Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME, 2 plus 2, 3 plus 2, parce qu'on considère que l'étude de cas identitaire, enfin la grosse étude de cas de la certification se travaille sur l'ensemble de la formation, donc 2 plus 2, 3 plus 2. Communication, donc ça a été expliqué tout à l'heure par Amaya, nécessité de donner les outils de communication et de développer les capacités dès le début de la formation, 2 plus 1 et 0 plus 1 en deuxième année. CEJM, 4 plus 0 pour le tronc commun et 1 plus 0,5 sur la première et la deuxième année. Des questions ? Sur la grille, tout est clair. Pourquoi plutôt D1, domaine d'activité 1 en première année, et plutôt, pourquoi le terme de plutôt ? Parce que tout en faisant du domaine d'activité 1, on peut confier d'autres missions aux candidats, mais à condition qu'elles soient négociées en rapport avec le référentiel. On arrive presque à la fin de l'exercice. Le travail qui nous a été confié, c'était un travail, mais c'était surtout de grands moments de plaisir partagés. Partagé avec plusieurs personnes. Tout d'abord, il y a eu l'étude préalable et très nombreux professeurs ont été associés. Sans ce matériau qui nous a été ramené, je pense que rien n'aurait été possible en termes de rédaction d'un référentiel. Si la rédaction a été possible, c'est bien parce que nous avions des entretiens très précis, des résultats d'enquête tout à fait pertinents. Et donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été associées d'une manière ou d'une autre à l'étude préalable. Donc, certains sont présents ici, merci à vous, d'autres ne le sont pas. Donc, ils sont de l'Académie de Créteil, de Lille, de Versailles, de Clermont-Ferrand, de Reims, je crois que c'est tout. Voilà, parce qu'ils ont été choisis pour avoir une représentativité de toutes les académies françaises, mais à partir d'un échantillon. Et puis, un groupe de travail, donc on s'est réunis très régulièrement et on ne pouvait pas vous laisser repartir sans qu'on les remercie. Donc, ils sont intervenus aujourd'hui. Vous les connaissez maintenant, si ce n'était pas déjà le cas avant. Donc, Sophie Catino, qui n'est pas là, mais qui nous entend. Donc, Géraldine Fonteville, qui est là. Amaya Géronimi, Hervé Gouvenot, Christophe Kress, Véronique Montmaron, Carole Pietri, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a participé aux travaux de rédaction. Valérie Raymond, qui est là dans la salle, je crois. Joanne Richard. Et puis Jacqueline Tédier, qui est en retraite, mais qui prenait tellement plaisir à venir. Voilà, Jacqueline est une retraitée qui avait plaisir à venir nous rencontrer. Donc depuis 18 mois que vous êtes en retraite, vous avez participé à nos travaux, merci. Et puis d'autres nous rejoignent. Alors juste simplement pour vous donner la suite de ce qu'on va faire en termes d'accompagnement. Donc dans le guide de formation qu'on vous invite vraiment à lire, même si c'est du registre du mode d'emploi, mais vous allez retrouver peut-être des éléments d'explicitation ou d'explication qui nous semblent importants. Donc il nous semble important de vous les faire partager. On vous indique des bibliographies aussi assez simples. Pour ceux qui vont partir ce soir en vacances, on vous incite à lire le guide du routard, mais n'importe lequel, le guide du routard des risques informatiques ou de la sécurité informatique. Voilà. Et puis, on a des ressources donc, que vous connaissez déjà. On pense à ce qui a été fait sur la veille au mois de janvier, donc présenté par Claire Denzel. Donc tout ça, ce sont des ressources que vous avez déjà, auxquelles vous avez déjà accès. Avec les deux BTS, support à l'action managériale et gestion de la PME, on a voulu accompagner les équipes avec trois parcours magistères. Donc un parcours magistère sur le numérique. Donc Christine Gobert-Macon va assurer le pilotage de ce parcours magistère. Un deuxième sur les ressources humaines. Et puis un troisième sur la communication. Alors celui sur les ressources humaines va être piloté par notre collègue Franck Briet, qui est spécialiste de la question. Et puis j'aurai le plaisir de travailler sur le parcours magistère sur la communication. Volet complémentaire, évidemment, c'est les centres de ressources donc, que vous connaissez. Alors vous êtes habitué au travail et à la qualité des productions du CRCOM, à la fois sur CEJM, mais aussi évidemment sur le BTS gestion de la PME. Donc à la fois avec des ressources qui vont être des ressources d'auteur, comme celles qui vous a été présentées tout à l'heure, donc des ressources qui sont des ressources de référence, qui sont des ressources pour la classe, prêtes à l'emploi, presque. Et puis des ressources qui peuvent venir, comme l'a suggéré Isabelle tout à l'heure, qui peuvent venir des académies. Donc on est prêt à ouvrir la diffusion de ces ressources à des productions académiques, dont vous assureriez le pilotage. Par exemple, ce n'est pas seulement les représentants qui sont là aujourd'hui qui vont se mettre à produire, mais ça peut être aussi un travail d'équipe. Et si vous pensez que la ressource mérite d'être connue, diffusée, alors on peut évidemment la faire remonter au niveau national, soit directement pour qu'elle soit placée sur le site du CRCOM, soit parce que depuis le CRCOM, on ira chercher par un lien une ressource qui sera déposée sur un site académique. Et puis, on essaiera d'avoir une interactivité ou une réactivité par rapport à des questions. Donc nous, notre travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Dès qu'il y a des questions qui se posent, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Donc le fil Twitter qui a été mis en place aujourd'hui est utilisé, est pérenne. Donc il peut être utilisé pour faire remonter des questions, mais aussi tout simplement parce que le mail, même si le mail est aujourd'hui dépassé, nous pourrons l'utiliser encore. Voilà. Alors, dans les personnes qui nous rejoignent dans les travaux, mais j'ai commencé à dévoiler, donc Céline Attalie, je crois que Céline est là. Non. Bon. Donc, qui interviendra sur le parcours magistère en communication. Muriel Couteux, qui est là, voilà, de l'Académie d'Aix-Marseille, qui interviendra sur le parcours en ressources humaines. Olivier Delarue, qui est là parce que tu interviens sur le parcours numérique avec Christine, c'est ça ? Éric Deschintres, Académie de Strasbourg, toujours sur le parcours numérique. Et puis Sophie Jacquier, qui est là, je crois, voilà, Académie de Lyon, pour le parcours en communication. Et Mireille Vaujani, IPA de l'Académie de Bordeaux, pour le parcours voilà, sur le numérique. Merci à vous.